ville intelligente, on en parle beaucoup depuis à peu près 10-12 ans. De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est quelque chose appelé à survivre les effets de mode ? C'est un peu de tout ça dont il va s'agir dans ce cours. On va commencer par s'interroger sur est-ce que le numérique va changer la ville ? Bien des prophéties ont été faites concernant l'impact du numérique sur les villes, et certaines se sont révélées, enfin en tout cas jusqu'à présent, plutôt erronées. Au milieu des années 1990, par exemple, Bill Mitchell, qui était à l'époque professeur au MIT, annonçait dans un livre qui avait connu un grand retentissement, City of Bits, que la ville de l'avenir serait plus tranquille et plus verte que celle qui l'avait précédée, puisque beaucoup d'activités, en fait, allaient passer online. Au lieu de se déplacer, on se communiquerait en utilisant l'Internet, et donc les circulations physiques étaient appelées à diminuer. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On sait bien que l'activité en ligne génère souvent de l'activité physique. Un exemple caractéristique, c'est Amazon. Si vous commandez quelque chose sur Amazon, en fait, il faut bien que ça vous arrive en général par la poste. Et du coup, les infrastructures physiques se sont multipliées et la mobilité a continué à croître. Alors, depuis quelques années, dans des métropoles comme Paris, on assiste à un tassement, voire au début d'une diminution de la circulation physique, mais c'est une tendance qui s'amorce tout juste. Et donc, on ne peut pas dire que pour l'instant, le numérique ait dématérialisé les échanges urbains. Dans le même genre d'idée, certains géographes et journalistes, comme par exemple Joel Kotkin, avaient annoncé que le numérique, ça serait un peu la fin des concentrations métropolitaines et qu'on assisterait plutôt à une espèce de dispersion des activités, car après tout, on peut se livrer à des tas d'activités sur Internet. Et donc, a-t-on besoin forcément des effets des métropoles ? Là encore, ces prédictions se sont révélées pour le moins inexactes, dans la mesure où on sait bien aujourd'hui, on a plutôt assisté à une métropolisation. Et l'Internet lui-même a une géographie qui est assez fortement celle des centres-villes. Ici, par exemple, il y a quelques années, la géographie des noms de domaine de l'Internet localisé dans le downtown, dans le centre de San Francisco, on voit qu'on n'est pas que dans des effets de suburbanisation et de dispersion territoriale. La métropolisation garde de beaux jours devant elle, etc. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en fait fait partie d'une série de travaux que j'ai consacrés depuis à peu près une dizaine d'années au numérique. Je vais commencer par deux livres, Culture numérique et architecture, et un livre sur le retour de l'ornementation en architecture qui étudiait plus particulièrement l'échelle de l'architecture. Et j'ai publié deux livres, en français et en anglais, sur la question des villes intelligentes. Alors, les travaux que j'ai pu mener ont finalement en commun deux caractéristiques générales sur lesquelles il me semble important d'insister au début de cette séance. Le premier, c'est que le numérique, pour moi, ce n'est pas seulement un ensemble de technologies, c'est en fait une transformation culturelle. C'est pour ça que j'utilise volontiers le terme de culture numérique. Et je dirais, c'est au moins autant en tant que transformation de la culture que le numérique impacte l'architecture et les villes qu'en tant que technologie. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'effort pour essayer de replacer le numérique dans une généalogie, finalement, de l'évolution technique qui s'étend quand même bien au-delà, je dirais, de la naissance des ordinateurs et du développement de l'Internet. Comme je l'ai dit au cours de la séance précédente consacrée à la généalogie qui va de l'électricité au numérique, pas mal de choses qu'on croit très récentes sont en fait plus anciennes. Par exemple, Amazon est rendu possible par le développement de la vente en ligne à la fin du 19e siècle. De la même façon, l'enseignement en ligne qui se développe aujourd'hui est l'héritier en fait de toute une série de tentatives et puis aussi de désirs qui se font jour dès la fin du 19e et le début du 20e siècle. Ici, une image un peu amusante de Robida sur la possibilité de cours par correspondance en utilisant ce qu'il appelle un téléphonoscope, bizarre croisement entre le téléphone et puis l'image animée. Évidemment, ça date d'avant la télévision. Le téléphonoscope ne verra jamais le jour, mais en tout cas, ça annonce bien que bien avant Skype, que ces questions finalement d'enseignement à distance, etc., préoccupent les gens dès le début du XXe siècle. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est en fait de commencer en présentant finalement quatre thèses concernant ce qu'est la ville intelligente, vers quoi va-t-on, etc., suivi ensuite d'un certain nombre de questions qui se posent à propos de la ville intelligente. Je parlerai après l'énoncé donc de ces quatre thèses, et après avoir essayé de les développer, des questions de gouvernance et de politique, parce que la ville intelligente, la smart city, comme on dit en anglais, c'est une question qui est, comme je l'ai dit, au moins autant culturelle que technologique, et dans la culture, la politique fait partie intégrante de la culture. Deuxième question à laquelle je voudrais m'atteler, c'est est-ce qu'il y a des évolutions possibles des formes urbaines, et puis en notamment, et puis aussi est-ce que, par exemple, aussi les infrastructures vont être impactées par le développement de la smart city. Et puis, dernier point sur lequel je m'étendrai, c'est les limites un peu de cette idée de smart city. C'est quelque chose sur lequel j'ai écrit plusieurs textes, mais il me semble important d'insister sur le fait que la smart city, ce n'est pas la panacée à tous les problèmes de l'urbanisme aujourd'hui. Ça pose des questions dont certaines sont en fait assez difficiles à résoudre. Alors, commençons donc par ces quatre thèses concernant les villes intelligentes qui vont permettre un peu d'essayer de peler l'oignon, de savoir un petit peu de quoi parle-t-on derrière ce buzzword, ce mot un peu attrape-tout de ville intelligente ou de smart city. Alors, première thèse, la ville intelligente, c'est ce qui complique les choses, c'est que c'est à la fois un nouvel idéal et puis un ensemble de processus concrets d'expérimentation et de transformation de l'urbain. C'est les deux à la fois. Du coup, ça mélange parfois des choses qui tiennent plutôt de la communication, de l'imaginaire, etc. Et puis des choses tout à fait concrètes, comme des essais pour améliorer la circulation et la gestion des infrastructures, etc. Et je crois que, comme je l'ai déjà dit, il faut penser la smart city comme quelque chose, la ville intelligente, comme quelque chose qui est indissociablement technologique, social et politique. C'est ce que j'appelle finalement la dimension culturelle de l'évolution numérique. Alors, côté idéal, commençons par un peu les idéaux. C'est quoi finalement la smart city? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu attrape-tout? Encore une fois, ce n'est pas un concept et les gens des sciences sociales se sont fait fort de démontrer à quel point finalement ce terme de smart city était contradictoire, peuplé de choses extrêmement différentes les unes des autres, etc. Je dirais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ça ne veut pas dire que ça ne corresponde à rien. Ça correspond en fait à un ensemble de dynamiques, d'aspirations, etc. Donc c'est quoi la ville intelligente? Première idée, une ville plus efficace, rendue plus efficace, notamment du point de vue de la gestion de ses infrastructures, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est quelque chose dès le départ. On va essayer, par exemple, d'améliorer la circulation, les parkings, l'éclairage urbain. Quelque chose, par exemple, qui va inspirer des expérimentations comme le boulevard connecté que la ville de Nice essaye de développer, alors il y a de ça à peu près une dizaine d'années, en liaison avec l'entreprise Cisco. Ça, c'est première idée. Deuxième idée, qui est, alors évidemment, les big data vont jouer un rôle à partir d'un certain moment. Ici, une représentation finalement des bus en temps réel dans Londres. Donc, toute cette idée finalement que les quantités massives de données, ça joue un rôle. Deuxième idée, qui n'était pas présente au tout départ, c'est l'idée que le numérique, ça va aussi permettre d'être plus sobre énergétiquement. Avec cette idée finalement que la ville verte, la ville résiliente, c'est une ville dans laquelle le numérique sert de guide pour essayer d'améliorer les choses. Alors, ça s'est beaucoup développé, ça a atteint une espèce de pic, et puis aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de reflux, dans la mesure où on se rend compte que le numérique ne va pas résoudre tous les problèmes, finalement, liés à l'urgence climatique. La montée des eaux, par exemple, n'est pas soluble dans le numérique. Et du coup, la ville intelligente, elle est un peu en train de se redissocier de cette idée de ville qui serait nécessairement verte et résiliente. Mais en tout cas, ça a été très présent au travers d'expérimentations qui sont restées été assez fameuses, comme par exemple lorsque un ami et collègue Carlo Ratti du MIT s'est amusé à coller des puces sur le contenu de poubelles à Seattle pour essayer un peu de regarder où les choses allaient. Et il y a l'histoire célèbre dans cette expérimentation d'une paire de baskets usagées qui fait deux fois l'aller-retour entre la côte est et la côte ouest, ce qui n'est pas le signe d'une technique de recyclage extrêmement efficace. Donc du coup, finalement, à travers ce qu'on appelle parfois le monitoring en anglais, l'idée finalement qu'on va améliorer le métabolisme, le fonctionnement de la ville afin de la rendre plus sobre énergétiquement. Troisième idée, l'idée d'une ville qui, grâce au numérique, mais pas seulement, va devenir plus stimulante et conviviale. La ville intelligente, ça renvoie à une idée d'une nouvelle qualité de vie, une ville où les boutiques, les restaurants proposant des cuisines intéressantes se multiplieraient. Une ville évidemment destinée à attirer de jeunes professionnels, de jeunes et moins jeunes professionnels ambitieux, dans le cadre de ce qu'on appelle parfois l'économie de la connaissance, c'est-à-dire la ville intelligente, ça serait littéralement une ville qui aspire les talents pour servir finalement les nouveaux piliers de l'économie du début du XXe siècle, alors du XXIe siècle. Ça se corrèle avec des idées aussi d'une ville sensuelle, d'une ville qui s'adresse au sens. L'architecture a beaucoup joué là-dessus avec un espèce de retour à la tactilité des ambiances. Ici, c'est un pavillon de l'exposition de Shanghai, de Heatherwick, qui joue beaucoup sur la confusion entre le sens de la vue et le toucher. Plus généralement, cette idée finalement d'une ville dans laquelle l'architecture fait partie intégrante d'une recherche de la satisfaction des sens, de la stimulation à la fois sensorielle et intellectuelle. Un bel exemple finalement des stratégies autour de ça, c'est lorsque MIT, par exemple, va se préoccuper de redévelopper complètement le quartier qui entoure ces bâtiments universitaires, de crainte que le caractère un peu ennuyeux de la ville autour du campus de MIT nuise à l'attractivité de l'université, avec finalement l'idée que cette nouvelle économie de la connaissance, elle est indissociable d'une qualité de vie urbaine. Alors ça va de pair, évidemment, avec l'idée de compétition entre les villes. Les villes, aujourd'hui, se battent pour attirer des professionnels dans des secteurs de pointe comme la biologie, l'informatique, etc. Et la ville intelligente, c'est souvent, c'est souvent une approche qui est en partie destinée à renforcer ce pouvoir d'attraction. Donc on voit, c'est quand même, cette idée de ville intelligente, c'est quand même un peu quelque chose d'un peu attrape-tout à partir d'une base qui est finalement le développement des technologies numériques pour mieux gérer la ville. Alors, autre chose à noter, c'est que la ville intelligente, c'est pas un idéal monolithique. Le futur de la ville aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en discussion, et vous avez finalement des approches très high-tech, et puis des approches plus low-tech, l'agriculture urbaine par exemple, la permaculture, toutes ces questions sont aussi très présentes dans les débats urbains. Du coup, est-ce qu'on fait du high-tech, est-ce qu'on fait du low-tech? Autre question sur laquelle je reviendrai, est-ce qu'on fait finalement, on aborde cette question de façon descendante, à partir finalement d'un espèce de contrôle par les institutions, les organismes de gestion des grandes infrastructures, de ce qui se passe en ville? Ça explique le succès du PC opérationnel dans pas mal de discours sur la ville intelligente. Ici, par exemple, un PC opérationnel de gestion des eaux dans une ville moyenne américaine. Donc, est-ce que c'est cette approche qu'on utilise, ou est-ce qu'on privilégie plutôt une approche bottom-up? Ici, vous avez, par exemple, une Open Street Map Party. C'est Open Street Map, c'est un de ces sites collaboratifs dans lesquels les gens se rassemblent pour faire de la cartographie urbaine, pour ensuite la mettre en ligne. Et ensuite, ici, vous avez par exemple un de ces rassemblements collaboratifs en Amérique centrale, avec finalement l'idée que la ville intelligente de l'avenir, c'est plutôt quelque chose qui part de l'initiative citoyenne. Donc vous voyez, ville high-tech, uniquement high-tech, ou ville dans laquelle la relation entre high-tech et low-tech, numérique et par exemple agriculture urbaine se pose, ville top-down, donc très, avec une logique très descendante ou ville finalement collaborative dans laquelle les choses sont plutôt bottom-up, vous voyez qu'en fait, ces questions se posent. Ces questions se posent aujourd'hui et la ville intelligente, c'est quelque chose qui est au carrefour finalement d'influences assez contradictoires. Alors, je reviendrai par la suite sur ces contradictions. Ce qu'il faut noter, c'est que malgré tout, il y a une espèce de mouvement un peu irrésistible d'utilisation du numérique qui est lié peut-être à la nature profonde de ces technologies. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des technologies qui ne concernent pas seulement les grands appareils productifs, c'est des technologies qui nous concernent dans notre vie quotidienne. Nous avons tous des téléphones, des smartphones, nous avons tous des tablettes, des ordinateurs, etc. Nous vivons finalement immergés dans la sphère numérique. Du coup, le numérique, ça épouse un peu le contour de nos vies et ça épouse aussi le contour de nos aspirations et de nos désirs. Ça explique ce que je qualifie souvent de caractère autoréalisateur des technologies numériques, c'est-à-dire qu'en fait, nous le désirons si fortement que ça finit par advenir, caractère qui s'applique aussi à la ville intelligente. En d'autres termes, on peut dire que la ville intelligente deviendra une réalité dans la mesure où nous voulons qu'il en soit ainsi, parce que nous voulons, par exemple, accéder à toute une série de services urbains via nos téléphones, etc. Alors ça, c'est quelque chose à propos du numérique, par exemple, l'idée d'une informatique ubiquitaire, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas cantonné à votre ordinateur, mais qui envahirait tout l'espace, c'est quelque chose qui a en fait presque 15-20 ans et qui est développé très tôt par les majors du numérique en réponse finalement à des attentes des humains de l'ère numérique. De la même façon, les écrans tactiles c'est quelque chose qui est imaginé assez tôt et ça explique aussi pourquoi très souvent les films, les romans d'anticipation servent un peu de caisse de résonance aux innovations numériques, par exemple les écrans tactiles, avant qu'ils arrivent sur nos téléphones et nos tablettes, eh ben, ils sont déjà présents dans Minority Report, le film d'anticipation de Spielberg, et c'est assez typique de ce rapport, de ce caractère autoréalisateur du numérique. Donc finalement, la ville intelligente, c'est ce que je qualifierais volontiers d'idéal autoréalisateur, c'est le terme que j'avais utilisé comme sous-titre du livre que j'avais écrit il y a quelques années en français sur cette question. Mais ce caractère autoréalisateur renvoie aussi à l'idée que la ville intelligente, ce n'est pas qu'un idéal, c'est aussi quelque chose qui renvoie à un ensemble concret d'expérimentations et de processus de transformation des villes. La ville intelligente, du coup, c'est pas uniquement des villes idéales, comme par exemple, on a beaucoup parlé à un moment de Songdo, ville nouvelle à la périphérie de Séoul, qui était censée être la quintessence de la ville intelligente. C'est pas non plus Masdar au Moyen-Orient, dont on a aussi beaucoup parlé. La ville intelligente, c'est la ville telle qu'on la connaît, qui est progressivement transfigurée, transformée par les technologies numériques, par exemple. Alors, c'est pas non plus ça. Ça, c'était un projet aux limites de la science-fiction pour une ville nouvelle intelligente en Inde. En fait, la ville intelligente, c'est les villes que nous connaissons dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement qui sont progressivement transformés par le numérique. En Europe, par exemple, c'est Barcelone, ou c'est encore Vienne, Paris, Londres, mais aussi des villes de taille moyenne comme Montpellier, Strasbourg, Rennes, etc. Dans les pays en développement, c'est tout aussi présent, des villes comme Medellin, des villes en Afrique comme Kigali sont présentes sur ce front de la ville intelligente, même si c'est parfois de façon assez différente. Alors, processus concret, ça veut dire qu'il y a des acteurs derrière. Alors, c'est qui les acteurs de la ville intelligente? Alors, peut-être pour comprendre un peu comment tout ça s'est développé, il est bon de revenir en arrière et de se demander finalement qui est-ce qui s'est lancé dans ces idées de ville intelligente. Qui sont les acteurs, finalement, de ce qui se joue sous nos cieux. Un premier acteur, en fait, au milieu des années 2000, en fait, c'est les grandes compagnies du numérique, IBM, Cisco notamment, qui vont, en fait, s'intéresser à la ville dans la perspective, finalement, de la conquête de nouveaux marchés, en se disant, finalement, il y a eu, n'oubliez pas, le crash des dot-com quelques années auparavant. Donc, finalement, pour essayer de conquérir de nouveaux marchés et maintenir la croissance de leur business, ces entreprises se disent pourquoi ne pas s'adresser aux villes et leur vendre des plateformes qui permettront de mieux gérer leur infrastructure, leur transport, les questions de mobilité, etc. Alors, par exemple, IBM, le terme smart va être en fait utilisé assez systématiquement par IBM. Cisco aussi va se lancer, comme IBM, dans des partenariats pour essayer de développer ces idées-là. Ce qui m'amène, j'ai parlé de partenariat, second acteur, en fait, assez vite, les maires et, je dirais, le personnel politique d'une série de villes confrontées à des questions urbaines assez inextricables et se disant « il y a peut-être dans cette affaire quelque chose qui peut nous aider à trouver une solution aux défis que nous rencontrons ». Alors, à ces aspects très concrets se rajoute une forte dose de communication, de public relation, c'est-à-dire qu'en fait, la ville intelligente, c'est aussi un formidable thème de discours, donc on va finalement se servir de ces expérimentations, souvent des partenariats que l'on juge prestigieux avec des entreprises comme IBM ou parfois des institutions universitaires comme le MIT pour essayer de promouvoir sa ville. Alors, par exemple, en France, c'est la perspective dans laquelle Nice va développer un partenariat avec Cisco, dont j'ai déjà parlé à propos du boulevard intelligent, pour à la fois mieux communiquer sur Nice, ville moderne, ville à la pointe du progrès, et puis aussi essayer concrètement quand même de répondre à un certain nombre de défis urbains. Donc, deuxième partenaire, les maires, les personnels politiques, qui vont entraîner dans leur sillage, parfois, je dirais, malgré leur forte réticence, les administrations techniques municipales. Donc, je dirais, c'est un processus qui va s'enclencher, qui est très loin encore d'être achevé, qui pose beaucoup de problèmes parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas si simple de rendre l'administration technique d'une ville intelligente. Mais en tout cas, quelque chose est lancé qui ne va pas s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Alors, troisième acteur, en fait, les gens des start-up. Pourquoi les gens des start-up ? Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les villes intelligentes, c'est pas uniquement des endroits dans lesquels on peut expérimenter du software, etc. C'est les producteurs de cet or noir du 21e siècle dont on parle volontiers, qui sont les data, les big data, les quantités massives de données produites par les villes à partir desquelles on peut fabriquer des applications, on peut vendre des choses aux gens, on peut finalement créer un nouveau monde, finalement explorer de nouveaux horizons capitalistiques. Alors du coup, troisième acteur, ça va être pas seulement les majors finalement, mais les débuts des plateformes avec le développement de ce qui deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes, Airbnb, Uber, etc. Ça repose quand même très largement sur ici c'est Foursquare, ça repose très largement sur cette idée finalement de la ville comme lieu de données, à commencer par la géolocalisation sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans cet exposé. Quatrième acteur, enfin, nous, parce que qui dit plateforme dit en fait s'adresser aux citoyens, et je dirais avec évidemment cette autre révolution qui est le smartphone, qui est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup, dans les pays développés, mais aussi dans beaucoup de pays en développement, les urbains sont équipés de terminaux mobiles au travers desquels ils sont joignables, ils peuvent accéder à des services. Donc finalement, toute cette dimension qui est celle de l'individu. Enfin, je dirais, dans des pays comme la France, mais pas seulement, un dernier acteur qui convient de mentionner, parce qu'une fois que la mayonnaise prend, qu'on a non seulement les géants du numérique, qui d'ailleurs, ces dernières années, ont eu un peu tendance à se retirer en se rendant compte que la ville, c'était un peu trop compliqué. Mais enfin, vous avez les maires, les administrations municipales, les plateformes, les citoyens, etc. Les acteurs classiques de l'équipement technique des villes, les Vinci, Veolia, etc. Ici, vous avez, par exemple, le Smart Water, l'eau intelligente ou l'eau gérée intelligemment par Veolia, tout à fait typique finalement de l'arrivée en force des majors, des infrastructures, de la gestion des villes. En France aussi, des acteurs comme la Caisse des dépôts qui vont rentrer dans la danse et développer finalement des approches de la question du smart, de la question donc de la ville intelligente. Donc on se rend compte qu'en fait, Encore une fois, on n'est pas seulement dans l'idéal un peu vaseux et contradictoire, on n'est pas seulement dans les discours de communication, on est dans finalement des stratégies d'acteurs et donc des transformations tout à fait concrètes, des expérimentations et des transformations des villes. Alors ça, c'était ma première thèse. Deuxième thèse importante à mon sens, c'est l'idée que la ville intelligente, ce n'est pas une dématérialisation de l'espace urbain. Au contraire, l'espace joue un rôle tout à fait clé dans la montée en puissance de la ville intelligente. Et c'est quelque chose d'assez général d'ailleurs qui renvoie à ce que j'appellerais volontiers un tournant spatial, « spatial turn ». Le terme avait été introduit par un géographe américain à propos, Edward Soja, à propos des sciences sociales, mais je dirais finalement le numérique a connu aussi un tournant spatial tout aussi net au début des années 2000. Alors, il est bon de se souvenir que lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la relation entre le numérique et la ville, on était plutôt dans l'idée qu'on allait constituer une espèce de ville parallèle, des villes qui seraient online, parallèlement, une ville d'électrons, en parallèle à la ville des briques et du béton, de la brique et du béton. Par exemple, la ville d'Amsterdam s'était lancée dans l'idée, finalement, d'une ville alternative qui serait finalement une ville digitale. Alors, on en est revenu, et je dirais aujourd'hui, la situation qui prévaut, c'est plutôt une espèce d'hybridation, et je dirais même d'intensification de l'espace physique au moyen, finalement, des contenus électroniques. Intensification, bon, ça c'est une image un peu ancienne, mais plutôt intéressante, c'est les photos prises à Manhattan par les gens et postées sur Flickr, et comme si, finalement, l'espace physique était en quelque sorte suractivé par le numérique. Alors derrière ça, il y a deux technologies qui vont jouer, ou en tout cas directions technologiques, qui vont jouer un rôle tout à fait clé dans une espèce finalement progressivement d'hybridation entre les atomes et les électrons, entre l'espace physique et les territoires numériques. Première chose, c'est la géolocalisation. Je dirais, on ne dira jamais assez à quel point c'est une révolution profonde. J'en ai déjà parlé à propos de l'histoire de la cartographie. Je le redis, la géolocalisation est une des révolutions les plus profondes que nous ayons connues au cours des 15-20 dernières années. Nous sommes aujourd'hui la première civilisation capable de suivre en temps réel, finalement, la position de milliards d'objets connectés, mais aussi d'êtres humains, etc., à la surface de la planète. Le petit point bleu, le « vous êtes ici » des cartes qui s'affichent sur votre téléphone correspondent à cette révolution, sont une des expressions de cette révolution tout à fait fondamentale. Les artistes sont les premiers d'ailleurs à s'en être avisés. Ça, c'est une collègue américaine, il y a une vingtaine d'années, ça m'avait beaucoup surpris la première fois que j'avais entendu un de ses exposés. Elle s'amusait avec un GPS de l'époque, c'est-à-dire truc encore assez massif, portant la marque de leur origine militaire, à marcher dans les villes. Ici, c'était sur le toit d'un musée d'art contemporain de Barcelone, pour tracer finalement des choses sur les écrans d'ordinateur. Plus proche de nous, mais là aussi, on ne fait plus ça aujourd'hui, l'artiste Don Belasco qui avait gardé trace de tous ses déplacements dans Berlin au cours de plusieurs années, dessinant une espèce de carte. Donc ici vous avez donc la ville de Berlin avec cet artiste Don Belasco qui s'était amusé à enregistrer avec un GPS là aussi tous ses déplacements pendant plusieurs années. Donc la ville telle qu'elle m'arrive à moi, telle que je l'expérimente, les artistes ont été donc très tôt motivés par ça. Donc cette deuxième hypothèse sur la ville intelligente, qui est cette idée finalement d'une espèce d'hybridation, entre l'espace physique et l'espace numérique, va être évidemment renforcée par toutes les techniques qu'on regroupe aujourd'hui parfois sous le terme de réalité augmentée, c'est-à-dire finalement toutes ces choses qui permettent de coupler très concrètement des contenus physiques avec des contenus numériques. Par exemple, bon, je dirais, quand vous marchez dans la rue avec votre smartphone et que ça affiche la position finalement des restaurants, etc., c'est un peu un exemple de ça. Ça a été testé au début, on s'émerveillait un peu, par exemple la ville de Cluny, qui a cette énorme basilique romane démolie au lendemain de la Révolution française, s'était amusé donc à proposer un parcours virtuel. Les parcours virtuels ont fait partie un peu de cette espèce de développement de la ville intelligente, dans laquelle vous pouviez voir la reconstitution de la basilique telle qu'elle était au temps de sa splendeur. Donc cette idée finalement d'une réalité augmentée, je dirais, bah aujourd'hui nous vivons de plus en plus dedans. La ville, elle n'est pas seulement peuplée d'écrans. Ça, comme je l'avais déjà dit dans une séance, c'est une technologie qui a malheureusement, enfin, ou heureusement d'ailleurs, la ville de New York avait essayé de remplacer ses cabines téléphoniques par des écrans. Bon, ça n'a pas marché. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les écrans, on les a dans nos poches. Donc, d'une certaine façon, il n'y a plus tellement besoin de ça. Alors, cette situation de réalité augmentée, j'ai déjà présenté une ou deux fois cette image, c'est un artiste londonien, je trouve que ça résume assez bien, finalement, on vit à la fois dans l'espace physique, avec ses feux rouges, ses bus, lorsqu'ils marchent, etc., et puis dans un espace numérique dans lequel s'affichent des messages, s'affichent aussi des cartes, avec une espèce d'indistinction grandissante entre l'expérience de la ville et la carte de la ville. Donc ça, c'était un peu ma deuxième hypothèse. Première hypothèse, finalement, la ville numérique, c'est à la fois un idéal et puis des processus concrets de transformation. Deuxième hypothèse, eh bien, la ville intelligente, c'est pas une ville dématérialisée, c'est au contraire une ville très matérielle, mais dans laquelle l'espace physique et l'espace numérique sont en continuité profonde l'un avec l'autre. Troisième hypothèse, alors ça c'est l'hypothèse un peu compliquée, sur laquelle je travaille depuis des années et je ne suis pas sûr d'arriver toujours à me faire comprendre, mais qui est l'idée suivante, c'est que en fait la montée en puissance du numérique est en train de transformer la façon dont on comprend les villes d'un point de vue socio-technique. C'est-à-dire que très grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'une ville pour un planificateur, pour un ingénieur, pour un architecte, etc., qui se propose d'améliorer, de transformer la ville? Alors, l'hypothèse que je fais volontiers, vous vous souvenez que dans ce cours, on a parlé à un moment de la montée en puissance de la ville des réseaux, de l'idée finalement de flux et de réseaux, c'est qu'on est en train de passer à une autre appréhension des villes, beaucoup plus fine, beaucoup plus granulaire, en termes d'occurrence, à partir desquels on construit des situations et des scénarios. Alors c'est l'hypothèse peut-être la plus sophistiquée des trois, mais je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Première chose, ben la ville pendant longtemps, vous vous souvenez, on a parlé de la ville à la Renaissance, etc. Ben la ville pour les architectes et les gens qui voulaient transformer, c'était un ensemble d'objets bâtis. On a parlé des fortifications, par exemple, c'était quelque chose de tout à fait important dans la pensée de la ville, les églises, les maisons, etc., les places publiques. Et jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on dit ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme, on l'appelait souvent l'embellissement des villes. Ça consistait à disposer des maisons régulières, des places public, des choses comme ça. On a parlé, lorsque j'ai parlé de la montée en puissance de la ville, des réseaux au XIXe siècle, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est finalement se mettait en place une ville dans laquelle ce qui comptait de plus en plus comme finalement élément clé du développement urbain, de la pensée, de la modernisation de la ville, c'était les réseaux. Les réseaux d'eau, les rues elles-mêmes n'étaient plus pensées uniquement comme des espaces au sens traditionnel, mais comme des réseaux, finalement, de rues, d'avenues, etc. Ici, bon, c'est une carte que je vous ai déjà montrée, des égouts de Paris. Du coup, d'ailleurs, avec les réseaux, s'introduisait l'idée, finalement, d'une ville qu'on allait penser aussi comme un ensemble de flux, c'est-à-dire, finalement, la circulation, c'était une des questions clés. Bon, inutile en ces temps de grève de vous rappeler à quel point c'est important. La circulation, c'était une des notions clés, finalement, de l'urbain. Alors, l'hypothèse que je fais volontiers, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais passer là-dessus quand même, aujourd'hui, ce qui se passe, tout se passe comme si, finalement, on avait explosé la figure synthétique du flux et qu'aujourd'hui, on accédait à des myriades d'informations qui sont en fait des micro-événements. C'est-à-dire, le « vous êtes ici », sur le petit point bleu sur l'écran de votre téléphone, qu'est-ce que c'est en fait? C'est à ce moment-là, vous êtes en ce lieu précis. C'est finalement, c'est pas une chose, c'est un micro-événement. De la même façon, bah, qu'est-ce que stockent les opérateurs de téléphone? C'est le numéro temps en temps à appeler le numéro le numéro X a appelé le numéro Y à telle date. Et d'ailleurs, on sait aussi où était le numéro X à cause de la géolocalisation et où était le numéro Y. Et on se rend compte qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle le big data, c'est des traces de choses qui se sont passées. Comme vous avez franchi le portillon des métros, vous avez retiré 300 euros à un distributeur, etc. Et vous rendu compte, finalement, c'est comme si on avait explosé la figure synthétique du flux et qu'aujourd'hui, on accédait à ces myriades de particules, ça c'est un autre, de la même façon, par exemple, aujourd'hui, on peut savoir finalement où sont les taxis, comme finalement des petits points, des molécules, etc. Du coup, ça transforme un peu, alors c'est lié à quelque chose de plus fondamental, d'où cette image, c'est que l'information, c'est pas une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un bit d'information? C'est, en fait, c'est pas une chose, c'est l'état d'un circuit. Dans lequel il y a du courant, il n'y a pas de courant, sous forme élémentaire, c'était ça il y a très longtemps, 0 ou 1. En fait, l'information n'est pas une chose, c'est un élément, c'est une occurrence élémentaire, un bit d'information. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a vue sur les écrans, ce n'était pas des choses, c'est en fait des événements possibles, comme par exemple sur les écrans radars, c'est le premier système intégré dans lequel il y a des ordinateurs, il y a des écrans, et qu'est-ce qu'on regarde? C'est si les Russes attaquent avec des missiles l'Amérique du Nord. Ce qu'on retrouve par exemple dans les films hollywoodiens, ce qu'on retrouve aussi dans l'univers du jeu vidéo, ce qu'on voit sur un écran, c'est des choses qui arrivent. Ça va, je me fais comprendre? Bien. Alors du coup, à partir de ça, bah, vous pouvez construire quelque chose d'un peu surprenant, qui est des cartes globales de situations urbaines. Par exemple, il vous paraît absolument normal que vous arrivez à Roissy, bah, vous avez l'état de la circulation. Alors vous notez, c'est un peu ancien maintenant, état des bouchons en 2013. Aujourd'hui, ça serait très très rouge, évidemment, avec les grèves. Mais finalement, vous pouvez construire des situations qui vous disent finalement, en temps plus ou moins réel, ce qui se passe. Etc. Donc du coup, à partir d'une ville de réseau dans laquelle on calculait les flux, mais comme des bilans plutôt globaux, etc., on passe à une ville de micro-événements qui s'agrègent pour donner une image des situations. À partir de là, et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal insisté dans des séances précédentes, vous avez une espèce de continuité étrange entre le fait que vous puissiez savoir en temps réel ce qui se passe, et une prolifération de scénarios, de simulations, etc. Du coup, comme si la ville, on la pilotait de plus en plus à travers l'exploration, comme on a beaucoup de données, on sait ce qui s'est passé en des tas de moments, finalement, comme si on pouvait explorer, à partir de cette énorme base, ce qui peut se passer dans l'avenir. Un peu la façon dont les plateformes, d'ailleurs, finalement, vous proposent des choses. Vous avez acheté telle chose. Statistiquement, les gens qui ont acheté ça ont tendance à être intéressés par tel autre produit. Donc, vous voyez, finalement, on fait tourner logiciels, des algorithmes qui permettent d'essayer de prédire l'avenir ou de l'explorer. Ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle, en fait, c'est pour l'instant encore essentiellement des algorithmes qui extrapolent à partir du présent des conduites possibles, des évolutions possibles. Du coup, une ville qui devient finalement une ville, je dis que pour revenir à ce que je disais au départ, si on partait de cette ville que nous avait léguée la première modernité industrielle, qui était une ville de réseaux et de flux, et on va vers une ville qui est une ville d'occurrence et de micro-événements stockés sous forme de big data, et qui peuvent permettre, je dirais, en instantané, de constituer des tableaux de situation, et puis d'extrapoler et de construire donc des simulations et des scénarios. Et je dirais, du coup, une ville qui se pilote un peu différemment de la ville traditionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être planifiée au sens traditionnel, c'est une ville qu'on explore par scénario. Je dis souvent, bon, ça c'est une image un peu c'est une image un peu fantasmatique de Londres, mais qui correspond finalement à ce qu'a essayé de réaliser Londres ces dernières années, c'est-à-dire Londres comme quintessence de la ville européenne, comme ville verte, mais aussi comme mini Shanghai européen. Et on se rend compte finalement, l'écriture de scénarios devient de plus en plus constitutive du futur urbain. De la même façon, je suis très frappé par le fait que ces villes qui deviennent de plus en plus événementielles, si l'on veut, eh bien, comme par hasard, les festivals, les événements jouent un rôle grandissant. Par exemple, lorsque la mairie de Paris s'interroge il y a quelques années sur faut-il fermer les voies sur berge, peut-on les fermer? Ben, on va organiser un festival pour Paris-Plage, pour tester ce genre d'hypothèse. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de festivalisation de l'urbain qui participe de cette espèce de montée en puissance de l'idée que la ville, finalement, c'est plus un ensemble de choses comme à la Renaissance, c'est plus un ensemble de circulations au sens classique, c'est plus seulement ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de circulation, mais c'est aussi un ensemble de choses qui arrivent et de choses qui sont susceptibles d'arriver, donc quelque chose d'assez différent de ce qu'on a pu connaître. Du coup, qui se teste vraiment beaucoup plus par des modes liés à la simulation, au scénario, que par la planification traditionnelle. Alors ça renvoie aussi à ce qu'on appelle parfois la gamification de la ville, c'est-à-dire cette espèce d'idée que la ville, l'expérience urbaine, c'est plutôt au travers du jeu qu'on l'appréhende le mieux. Et vous avez par exemple un jeu comme Watch Dogs qui vous proposait, alors c'était assez ironique, vous jouiez avec un joueur, avec un personnage, votre avatar avait lui-même un téléphone portable avec lequel il était censé hacker les services de la ville. Donc, vous vous rendez compte, une espèce de jeu en miroir, mais qui renvoie à quoi? C'est que finalement, avec votre téléphone portable, vous êtes comme dans une espèce de ville d'événements incessants auxquels vous permettent d'accéder ce terminal, et vous êtes comme un joueur immergé là-dedans. Si vous réfléchissez d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Une des raisons pour lesquelles on se perd dans les jeux vidéo, on oublie complètement le temps qui passe, c'est qu'on est constamment stimulé par des événements qui se passent. Finalement, le téléphone portable, ça joue ce rôle-là dans l'urbain. Ça va, je me fais comprendre? Bien. Alors pour moi, ça explique aussi une autre chose un peu étrange, qui est pourquoi la star architecture a eu un tel succès. C'est qu'en fait, l'architecture, et notamment ces fameux effets Guggenheim, je ne me souviens plus, vous êtes des ponts. On parle beaucoup depuis à peu près une vingtaine d'années de la montée en puissance d'une espèce de star architecture, avec l'idée que des projets magnifiques, un peu bouleversants, etc., vont jouer un rôle dans le développement urbain. Un exemple souvent cité, c'est le musée Guggenheim de Bilbao, par Frank Gehry, avec ses formes très étonnantes, etc., qui a accompagné la revitalisation d'une ville industrielle qui était à l'époque en complète perte de vitesse. En fait, l'une des raisons pour laquelle l'architecture a pu jouer ce rôle, c'est précisément cette espèce de transformation de l'avenir urbain en une écriture de scénario, comme si finalement l'architecture, lorsqu'elle est un peu décoiffante, permettait de cristalliser ces devenirs urbains possibles. Et ça explique finalement le succès de Jean Nouvel, le succès d'Herzog et de Meuron, et bien d'autres, Frank Gehry évidemment, avec finalement des projets dont on attend une espèce un rôle de catalyseur des futurs urbains. Donc ça, c'était ma deuxième hypothèse. La troisième est un peu déconcertante, mais assez facile à comprendre, qui est l'idée suivante. C'est souvent smart, en anglais, a d'ailleurs plus un sens de street smart, astucieux, agile, etc., qu'intelligent au sens français. Mais je proposerais volontiers quand même de prendre le terme intelligent en un sens plus littéral qu'on le fait souvent. Parce qu'en fait, malgré tout, cette ville intelligente, ce n'est pas uniquement une ville qui est mieux gérée, etc., au travers du numérique, c'est une ville dans laquelle toute une série de processus sont en fait délégués à des algorithmes, à des entités entre guillemets intelligentes, mais qui sont finalement artificielles. Et finalement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, les intelligences artificielles sont encore très étroitement spécialisées, pas intelligentes au sens classique. Mais en tout cas, il est clair qu'on va vivre de plus en plus au contact d'algorithmes et que du coup, eh ben, il faut s'habituer à l'idée qu'une ville, c'est plus peuplé seulement d'êtres humains, mais c'est pas seulement peuplé d'êtres humains, de chiens et de chats, mais c'est peuplé aussi ces autres êtres qui sont finalement les algorithmes. Alors ça, c'est un peu science-fiction, mais enfin c'est clair aussi qu'on va voir de plus en plus de robots dans les villes, en tout cas dans les villes développées, mais pas seulement. Et c'est clair que finalement, on va vers des sociétés urbaines qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a pu connaître. Alors, je ne suis pas sûr qu'on aille vers cette cette idée un peu effrayante de Big Brother, la ville qui contrôle tout, comme l'ordinateur HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et Dieu sait que ça se termine mal. D'abord parce qu'on en est très loin, et puis d'autre part, les villes, c'est tout de même un peu compliqué pour être géré comme ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que peut-être qu'il va falloir penser la ville un peu différemment. Je dirais, en même temps qu'on la pense, il va falloir la penser avec le développement durable comme quelque chose dans laquelle la nature est présente, ben, il n'y aura pas que la nature, il y aura aussi ces autres êtres un peu déconcertants que sont finalement les créatures artificielles. Pas toujours aussi charmantes que dans ce film d'Hollywood, mais en tout cas, cette question va se poser de plus en plus. Finalement, une ville aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un lieu de rassemblement des humains, il y a aussi des espèces d'animaux, et puis il y a aussi des algorithmes et des choses plus ou moins intelligentes, depuis les algorithmes qui gèrent les automates bancaires jusqu'aux voitures autonomes, etc. Donc voilà, ça c'était ma dernière thèse, la quatrième de mes thèses sur la ville intelligente. Maintenant, je voudrais essayer, dans un deuxième temps de cette présentation, d'essayer de passer en revue un certain nombre de problèmes qui se posent à propos de cette histoire de ville intelligente. Premier problème qui, je crois, semblera assez évident, des questions de gouvernance et de politique. Parce que la ville intelligente, comme je l'ai dit au tout début, c'est pas seulement une question technique, c'est une question culturelle et politique. Avec toute une série de défis à tous les niveaux. Il y a d'abord des défis, je dirais, au sens assez étroit du terme. Par exemple, réorganiser les services techniques d'une ville pour qu'ils communiquent mieux entre eux, etc., ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Et en fait, les choses se passent pas toujours de façon aussi transparente, etc., que l'on voudrait. Par exemple, les données, elles sont pas toujours interopérables. Les gens de la voirie peuvent pas toujours comprendre ce que les gens de l'environnement veulent dire, etc. Parfois, les gens ont pas envie de partager leurs données parce que les données, c'est le pouvoir, etc. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Pour prendre aussi un autre exemple, on se dit, la ville intelligente, c'est formidable. Par exemple, le citoyen va avoir une application s'il y a un nid de poule dans sa rue, va pouvoir le signaler au service technique. Mais le service technique, il n'est pas forcément content, parce que le service technique, il avait l'habitude de programmer ses opérations de maintenance de la voirie, il n'a pas forcément envie de se transformer en un serveur de café venant apporter le coca, etc. Et en fait, les gens, on se rend compte que ça se heurte à des résistances, ces évolutions. Donc, des problèmes de gouvernance tout à fait réels, et pas simples du tout. Alors, au-delà de ça, il y a des grandes questions, par exemple, de surveillance. Est-ce qu'on a le droit de vous surveiller, de stocker les données que vous produisez, etc. Ça, c'est Hudson Yards à New York, énorme développement de real estate, mais qui se veut aussi une communauté intégrée dans laquelle on va recueillir les données des usagers, etc. Ça se passe comment? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Cette question, elle a rebondi aujourd'hui avec, par exemple, les questions de profil social en Chine, inséparables des questions de City Brain que développe Alibaba, avec des approches ville intelligente très basées quand même sur le recueil de données et la surveillance. Même chose en Inde, même chose finalement un petit peu partout dans le monde. Autre question, les big data, elles sont à qui? Est-ce que c'est la ville qui doit posséder les villes data? C'est Smarter City Turning Big Data into Insights. C'est un très beau programme, a priori, d'IBM. Mais est-ce que c'est IBM qui a le droit de stocker ça? Est-ce que c'est les grands opérateurs? Est-ce que c'est les villes, etc.? Avec, évidemment, des positions très différentes. Vous avez des villes d'inspiration très néolibérale, let do, let pass, laisser faire, laisser passer, dans lesquelles, finalement, la collecte de données est laissée, finalement, chacun collecte les données qu'il veut. Puis vous avez des villes qui essayent quand même beaucoup plus de contrôler finalement qui a accès aux données, voire même de se transformer en maître du jeu dans la question de la production et de l'échange des données. Par exemple, Montpellier ou Rennes en France ont des services de la donnée, des services publics de la donnée, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette production. Donc on se rend compte que les data, les big data, c'est une question politique tout à fait crucial, qui va gérer ça dans les années qui viennent, c'est des questions. Évidemment, avec aussi qui a le droit d'y accéder, qui a le droit de faire de l'argent avec, toutes ces questions se posent. Alors, Il y a des questions aussi de politique plus générale, c'est-à-dire qu'on sait bien, par exemple, que les comportements en ligne, ce n'est pas les mêmes que les comportements physiques. C'est-à-dire, par exemple, bon, on a encore des côtés grands primates, les psychologues savent, par exemple, si je vous demande quelque chose en vous touchant le bras, si vous me laissez toucher votre bras, vous avez deux fois plus de chances de me dire oui que si vous ne me laissez pas toucher votre bras. Oui, c'est étonnant, mais en fait, on a encore des comportements qui sont en fait des comportements de grands singes dans lesquels le corps fait partie, disons, de l'investissement. Encore une fois, si, par exemple, je vous demande un truc qui paraît a priori aberrant, du genre « est-ce que vous pouvez vous lever demain matin à 5 heures pour me conduire au boulot ?» Si, encore une fois, je peux vous toucher, je multiplie la chance que vous me répondiez oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans nos comportements, y compris politique, le corps est très présent. C'est pour ça que finalement, même la démocratie, cette abstraction qu'est la démocratie représentative, se termine quand même par quelques centaines de gens physiquement présents, en tout cas la plupart du temps, dans des assemblées, c'est-à-dire des pièces. Alors en ligne, les comportements ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que les comportements sont beaucoup plus instables. Vous en avez marre d'une identité, vous en changez. Et les gens finalement sont beaucoup moins tenus que lorsqu'ils sont physiquement présents, etc. Du coup, ben, la politique en ligne, c'est compliqué. Or, de plus en plus de choses se passent en ligne. Songez au rôle de Twitter, par exemple, dans la démocratie américaine aujourd'hui, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, l'avenir de la politique, je fais plutôt partie des gens qui croient qu'on va pas, il ne s'agit pas de remplacer la démocratie participative, mais elle va devoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Un exemple très concret que rencontrent des tas de villes, en ligne, vous pouvez avoir un impact très supérieur à ce que vous représentez en nombre physique d'individus. Prenez les influenceurs sur YouTube qui ont des millions de visiteurs, ça peut être une adolescente de 13 ans qui a des millions de visiteurs. En ligne, vous pouvez avoir des associations de défense de telle ou telle cause, en fait, où il y a 3 personnes, simplement qui sont astucieux, ils postent les trucs au bon moment, ils ont des followers, du coup, etc. Et du coup, ils ont un impact en ligne très supérieur à ce qu'ils représentent. Et là, vous rendez compte qu'en fait, bon, ben, comment vous faites du débat participatif avec, dans ces conditions, ça devient très compliqué. Et donc, vous rendez compte que finalement, bon, cette question politique, elle est posée. Alors, du coup, pour rester dans le domaine de la politique, ah oui, peut-être avant. Alors, ces incertitudes tranchent avec les grandes certitudes parfois des vétérans de la simulation urbaine qui sont persuadés que de toute façon, avec le big data, on va pouvoir tout calculer, etc. Je dirais, en pratique, on est plutôt dans une phase d'incertitude. Comme je l'ai dit au tout début de cette séance, vous avez la tentation du top-down, du centre de contrôle avec le maire qui joue un peu à SimCity, etc. Et tout se passerait comme si finalement l'autorité était descendante et la ville intelligente, c'est un peu Big Brother qui vous indique que faire, comment le faire, etc. IBM a beaucoup communiqué sur le PC opérationnel de Rio de Janeiro. Cette image a circulé partout dans la planète. Et vous avez beaucoup de villes, notamment en Asie, vous avez un modèle asiatique qui se développe aujourd'hui, qui est très top-down, avec finalement l'autorité qui décide. C'est un peu le modèle de Singapour, mais aussi dans des villes chinoises, etc. Qui s'appuie d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait cette séance sur cybernétique et théorie des systèmes et villes, c'est un peu une résurrection de ces idéaux de modélisation, de prédiction et finalement de contrôle vertical. Souvenez-vous, avec le thème du control room du PC opérationnel de planning, c'est quelque chose qu'on avait vu dans les années 60, cet urbanisme Melville Branch, avec l'idée qu'on pilote la ville. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut piloter les villes comme on pilote des chars d'assaut ou des avions. Est-ce qu'une ville, ça se pilote? C'est en fait une question qu'on peut se poser. Et ce n'est pas si simple que ça d'y répondre. Il ne faut pas oublier, encore une fois, la cybernétique, c'était la science du pilotage des organismes vivants ou techniques. Est-ce que la science du pilotage, ça s'applique aux choses urbaines? C'est une question qui est posée. Alors, dans le genre pilotage, d'ailleurs, dans ces années-là, le summum avait été atteint par le Chili d'Allende, avant que les Américains arrêtent, qui avait imaginé de piloter toute l'économie du pays à partir d'une espèce de control room. Ça ressemble un peu à un décor de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était le PC opérationnel de pilotage de l'économie du Chili qu'avait imaginé Allende, avec Allende et ses ministres s'asseyant dans ses fauteuils délicieusement orange pour piloter le Chili. Bon, Allende n'a pas été suffisamment loin pour qu'on sache que donnait l'expérience, mais en tout cas, c'est très typique d'une chose qu'on voit revenir un peu aujourd'hui, avec ces idées de pilotage reviennent très très fortement dans certains discours sur la ville intelligente. Alors en face, vous avez à l'opposé, le modèle complètement inverse, la ville participationniste à base d'événements, de flash mobs, de Fab Lab, de toutes sortes de choses collaboratives. OpenStreetMap, par exemple, c'est le réseau finalement des cartographies d'OpenStreetMap sur l'Europe. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ces sites fonctionnent, bien sûr, Fix My Street et tous ces sites de partage, de collaboration, etc. Voilà, Fix My Street, par exemple. Comme je l'ai dit, les administrations techniques sont parfois un peu mitigées par rapport à ce que ça représente concrètement. Mais en tout cas, c'est une des autres des réalités. Alors peut-être qu'il faut imaginer qu'en fait, entre ces deux extrêmes de la ville finalement néo-cybernétique et de la ville collaborative wikipédienne, si vous voulez, en fait, toute la question, c'est le dosage. Il est probable, disons, qu'un métro automatique, ça ne soit pas quelque chose qu'il faille gérer de façon participative. Il est non moins probable que d'autres choses gagnent plutôt à être gérées en associant les citoyens. Donc je dirais finalement, quel est le dosage, me semble plutôt la bonne question. On se rend compte du coup que la ville intelligente, ce n'est pas une recette figée, c'est un ensemble de possibilités, une gamme de possibles au sein desquelles il faut faire des choix. Et on retrouve cette dimension politique. Alors la raison pour laquelle d'ailleurs finalement ces choses qui semblent opposées, en fait on peut les combiner à différents degrés, c'est qu'elles ont des bases communes, à commencer par le rôle, ça c'était un autre site qui était Mon Rio, qui était en fait un site collaboratif pour lutter contre les expropriations abusives, et on se rend compte qu'en fait aujourd'hui beaucoup de luttes urbaines passent par le numérique, et en fait la ville intelligente c'est aussi parfois la ville finalement alternative des gens qui se rebellent contre des formes d'autorité trop intrusives. Mais je disais finalement l'un et l'autre, alors autre chose peut-être à se rappeler, j'ai parlé de l'espace physique, pas oublier quand même que souvent les grandes mutations urbaines elles demeurent très très spatiales, les révolutions arabes par exemple, bien sûr il y a Twitter, mais ça à la fin c'est des corps physiques qui se rassemblent sur des places, et je dirais dans l'actualité de la France d'aujourd'hui, la grève contre les retraites à certains moments c'est des manifestations dans l'espace urbain. Bien, mais revenons à ce que je disais, l'une des raisons pour lesquelles la ville top-down et la ville bottom-up, la ville finalement néo-cybernétique et la ville plutôt collaborative, elles sont combinables ou hybridables à des degrés divers, c'est qu'en fait elles reposent sur des bases communes. Et parmi ces bases, l'importance des individus. Quand je disais la ville est peuplée d'occurrences et d'événements, une des raisons c'est que la ville est peuplée d'individus de plus en plus identifiables. Le numérique, finalement, contribue à transformer une ville. La ville du 19e, la ville des réseaux, c'est une ville des foules. Aujourd'hui, on est dans une ville dans laquelle les individus sont de plus en plus nettement, clairement identifiés. Et donc, ça change complètement la nature des stratégies urbaines. Et je dirais que ça soit le top-down ou le bottom-up, il repose en fait sur l'identification des individus, sur le fait qu'on sait qui vous êtes, où vous êtes, etc., etc. Alors ça peut être terrifiant, mais c'est néanmoins une des conditions urbaines d'aujourd'hui. Alors c'est quelque chose sur lequel j'avais autrefois commencé à réfléchir quand j'écrivais sur les cyborgs il y a 20 ans, c'était un petit bouquin sur la ville-territoire des cyborgs qui avait beaucoup choqué à l'époque parce que j'étais plutôt connu comme un gars qui écrivait sur le 18e siècle que sur les cyborgs. Et puis à l'époque, le cyborg, c'était encore assez exotique en France. Bon, maintenant, c'est devenu complètement banal. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train de devenir différents. Et c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois, d'où mon intérêt pour les cyborgs et autres figures fantasmatiques de l'identité urbaine contemporaine. C'est qu'en fait, la ville contemporaine, la ville, qu'elle soit intelligente, résiliente ou de sais quoi, elle est pour beaucoup une ville des individus. Même la ville résiliente, c'est aussi une ville d'individus. Et donc, je dirais, on ne reviendra probablement pas sur cette dimension individuelle. avec des dimensions parfois, bon, le biomonitoring, c'est fait partie des éléments, j'ai déjà montré cette image, ça fait partie des éléments qui vont vers ça. Alors il y a d'autres idées aussi derrière ça, qui est aussi finalement, au-delà des individus, même les populations deviennent des espèces de populations cyborgs, avec dans l'idée par exemple qu'on va, déjà le fait d'avoir des téléphones dans la poche, on devient un genre de cyborg. Mais vous avez d'autres idées, par exemple toujours mon collègue du MIT, Carlo Ratti, a imaginé, et c'est probablement quelque chose qui va se développer. On parle beaucoup, vous savez, aujourd'hui, de votre flore intestinale, de finalement que vous êtes défini au moins autant par votre flore intestinale et aussi tout ce que vous avez sur la peau comme bactéries, etc., que votre ADN. Du coup, l'idée, finalement, c'est pour suivre l'état des populations, eh ben, on va envoyer des petits robots dans les égouts et on va regarder ce qu'il y a dans les égouts, les flores, etc. Et il est très probable que d'ici une génération, il y aura des tas de bestioles numériques dans les égouts qui testent, mesurent, regardent, etc. Vous savez, dans le même genre, aujourd'hui, on peut prédire les épidémies de grippe à partir de Twitter. Parce que, en fait, on a les symptômes avant-coureurs beaucoup plus tôt qu'en monitorant la population de façon classique avec des thermomètres et des visites médicales. Et on se rend compte qu'en fait, cette ville d'individus, ça sera aussi une ville de population d'individus biomonitorés de façon différente. Alors j'ai parlé par ailleurs de la dernière fois de cette identité à la fois aussi en pulsion constante entre la dispersion dans les réseaux et le regroupement, image que j'ai déjà montrée la dernière fois. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une autre façon aussi de comprendre ça. Dans la ville intelligente, nous sommes à la fois répandus un peu partout. Et puis on est aussi finalement constamment en train de se regrouper, on est à la fois constamment en contact avec tout ce qui nous entoure et ce petit point bleu du « vous êtes ici » de votre téléphone. Bien, à ce stade, je voudrais maintenant me livrer à quelques hypothèses sur les villes de l'avenir, c'est quoi d'un point de vue physique. Parce que ça, c'est finalement la question la plus difficile. C'est finalement pas impossible de finalement d'élaborer des scénarios, retour au scénario, sur ce que va devenir la ville du point de vue des individus, du point de vue de la politique. Bon, on voit où, en tout cas où sont les problèmes. Du point de vue physique, ce n'est pas très simple. Pour une raison simple, c'est que la ville numérique, c'est quoi aujourd'hui? C'est les villes telles qu'on les connaît à 99,9%. C'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pour ça que j'ai fait cette séance un peu bizarre sur ville, numérique et électricité. L'électricité et le numérique n'ont pas chamboulé la forme urbaine. L'automobile l'a fait. Aujourd'hui, les villes numériques, on met des prises USB dans les bancs, par exemple. Ça, c'était une compagnie à Boston qui avait... Il y a une photo, j'ai pris la charmante jeune chinoise, mais il y a une photo avec Obama aussi sur ce banc. Decaux réfléchit beaucoup, par exemple, entre prises USB, écran, vidéo, etc., et numérique, qu'est-ce qu'on peut faire avec les abribus. Ça fait partie des choses, le mobilier urbain, oui, il y a des choses qui se développent. Ici, c'est une proposition israélienne pour un arbre intelligent, enfin, une espèce d'abri où il y aurait aussi des capteurs solaires, des points Wi-Fi, etc. Bon, ok, mais ça ne transforme pas la forme physique des villes. Alors la forme physique des villes, c'est quand même très frappant que les quartiers qui se voulaient super intelligents comme Songdo, en fait Songdo c'est un espèce de bizarre mélange d'inspiration finalement très traditionnelle, vous avez des trucs qui font penser à Central Park, il y a des canaux qui se veulent un peu vénitiens, il y a finalement un recyclage de tous les trucs qu'on connaît en matière d'urbanisme, la forme des villes n'a pas beaucoup changé. Alors bon qu'on soit clair, on ne va pas chambouler Paris à cause du numérique, les villes existantes vont probablement pas être appelés à beaucoup changer. Cela dit, on va construire beaucoup de villes et de quartiers nouveaux dans l'avenir, et peut-être qu'on pourrait les construire de façon différente à cause des technologies numériques. Alors là, vraiment, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Ensuite, je vais parler des infrastructures, et ça sera... On va revenir à des choses un peu moins planantes. Mais... sur les villes qu'on va construire, les quartiers qu'on va construire dans l'avenir, je voudrais faire une ou deux hypothèses. Première hypothèse, la lisibilité urbaine, ça a longtemps été un des grands enjeux, finalement, de la planification des villes. Il fallait que la ville, finalement, idéalement, ressemble à son plan. Ce qui est un peu ce qu'est l'image de la grille, par exemple, au XIXe siècle. La grille, c'est le plan de la ville qui devient la ville, si vous voulez. Ça, c'est Iowa City, une représentation très typique de ces portraits de ville américaines du XIXe dont j'avais parlé dans la séance sur la cartographie. Bien. Alors, l'hypothèse que je fais, c'est que par rapport à ça, vous avez des formes beaucoup plus complexes. Ici, c'est par exemple la vieille ville de Jodhpur. Bah, en plan, ça ne vous dira pas grand-chose. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, l'hypothèse que je fais volontiers, c'est qu'avec le numérique, la question de finalement que la ville ressemble à son plan devient finalement très seconde par rapport, je dirais, vous pouvez savoir à tout moment où vous êtes, même à Jodhpur, à cause du petit point bleu sur votre téléphone. Du coup, est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir une ville qui ressemble à son plan, une ville composée de façon classique? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un retour de la complexité urbaine? Bah, c'est une des questions que je me pose aujourd'hui. Qui est lié à une autre chose, c'est que la ville, on la fait de plus en plus par morceaux, et par morceaux qui peuvent être extrêmement enchevêtrés et compliqués, dans lesquels on peut mettre à la fois des programmes d'hôtels de luxe, des shopping malls, des stations, on empile les choses, un peu finalement sur le modèle de certaines des métropoles asiatiques aujourd'hui. Et on se rend compte que finalement, bon, bah, cette ville plus enchevêtrée, complexe, etc., on pourrait voir sa généralisation dans l'avenir. Ça, ça serait une première hypothèse. Un bon exemple de ça, je dirais, je parlais de ville asiatique, c'est la folie, ça c'est un projet de l'architecte néerlandais Rem Koolhaas pour Singapour. Le goût qu'ont les architectes aujourd'hui pour les empilements un peu surprenants, comme si finalement, là aussi, l'idée de la ville qui est juste une extrusion du plan avait de moins en moins de sens. Et c'est vrai que, bon, Hong Kong, par exemple, c'est pas une ville dont le plan va vous renseigner sur ce qu'est vraiment Hong Kong. C'est une ville tridimensionnelle. Peut-être que le tridimensionnel est appelé à un avenir dans un certain nombre de cas. Jusqu'où on peut extrapoler, c'est compliqué. Je voudrais maintenant revenir sur un terrain qui me semble plus sûr, qui est celui des infrastructures. Parce qu'en matière d'infrastructures, là oui, on voit tout de suite, on voit des changements. On voit des changements assez profonds et ça va me permettre de revenir à mes histoires autour de la ville des réseaux, à la ville des occurrences et des flux. Alors, il me semble que la notion d'infrastructure telle qu'on l'a connue, qui était dans une large mesure fondée sur l'idée de réseau, elle est en train de rentrer en crise. Je parlais d'événementialisation. Bah, aujourd'hui, vous allez dans le métro, vous savez quand arrive le prochain métro, quand arrive le suivant, etc. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, c'est pas toujours évident actuellement. Mais du coup, bah, le réseau qui était jusqu'à présent plutôt un ensemble de tuyaux devient un ensemble d'événements. Dans 5 minutes, vous avez le prochain métro, dans 12 minutes, le métro suivant, etc., etc. Plus généralement, avec les data, au lieu finalement d'imaginer l'infrastructure comme une série de tuyaux ou de conduits, et si vous imaginez plutôt une espèce de nuage de points, et dans laquelle vous dessinez des trajectoires en fonction de la demande. Vous avez par exemple des gens, alors ça c'est une société qui s'est cassée la gueule à Boston, mais au lieu d'avoir, elle avait des bus, au lieu d'avoir des lignes de bus classiques, eh ben, vous aviez des gens qui faisaient des demandes de déplacement sur leur téléphone à partir d'une application, et le bus optimisait sa traversée de la ville en fonction des demandes, une espèce de finalement de Uber version bus. Et finalement, bon, vous voyez exploser la figure traditionnelle du réseau. Je me fais comprendre là ou pas? Bon. Alors, à ça s'ajoute le fait qu'avec le téléphone portable, l'usager lui-même devient beaucoup plus éclectique. C'est-à-dire qu'il est plus condamné à un seul mode de transport. Il peut combiner des choses qui étaient difficilement combinables autrefois. Quand vous ne saviez pas quand le bus allait arriver, vous ne pouviez pas combiner le bus avec quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous pouvez savoir à peu près quand est le bus, et puis vous dire, ben, je vais faire un bout en bus, un bout en vélo, etc., etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ben, là aussi, la figure traditionnelle du réseau dont vous êtes captif explose, et vous êtes plutôt dans de la combinaison de ressources hétérogènes. J'en ai déjà parlé dans ce cours plusieurs fois. Finalement, un monde, finalement, dans lequel vous collez des choses, des bouts, qui appartiennent pas forcément à des réseaux intégrés comme autrefois. Et je dirais peut-être que l'avenir de la ville, c'est plutôt quelque chose... Et on retrouve finalement des figures qui sont celles de l'enchevêtrement, de la complexité à l'échelle des infrastructures. Ça rejoint ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur un retour aussi à l'idée de parcours. Donc une espèce, le GPS finalement renoue avec la logique du parcours qui était celle de la route avant le XVIIIe siècle. J'en ai parlé plusieurs fois. Et puis cette espèce de transformation profonde finalement, je dirais les plateformes, si elles sont si emblématiques, c'est parce qu'encore une fois, on passe d'une infrastructure qui était sur le mode du flux, c'est-à-dire finalement les égouts c'était des tuyaux avec des choses qui circulaient dedans. Et ben Uber c'est pas ça. Uber c'est en fait l'organisation de rencontres entre véhicules et clients potentiels. Et vous rendez compte, là aussi, une espèce de logique presque événementielle. Vous êtes ici, vous voulez aller là-bas, et vous avez des voitures qui sont autour, et on organise la rencontre. C'est comme une dating app. Comment elle s'appelle déjà, cette dating app, qui a beaucoup de succès dans votre génération? Il y en a une sur laquelle... Bon, enfin bref, c'est pas grave, mais ça fonctionne un peu plus sur ce modèle que sur le modèle de l'infrastructure traditionnelle. En dernier point sur lequel je voulais insister, qui est l'espèce de paradoxe, la ville connectée, c'est aussi la ville du rêve de la déconnexion. Et en fait, la ville intelligente, elle est contemporaine aussi de ces désirs d'éco-quartiers qui seraient partiellement autonomes. Ça, c'est l'opération BZ à Londres, l'une des premières opérations de ce type, avec l'idée qui serait off the grid à certains moments. Et on se rend compte que finalement, cet imaginaire de la ville intelligente, il est beaucoup plus complexe et il va dans des directions beaucoup plus différentes que ce qu'on imagine souvent. C'est que la ville hyperconnectée peut être aussi la ville partiellement déconnectée. Et il faut voir que ça correspond aussi à des questions qui ne sont pas seulement celles de la résilience urbaine. C'est que vous prenez par exemple les grandes métropoles des pays en voie de développement, avec parfois des réseaux électriques déficients. Alors, il ne s'agit pas d'être vert, mais très souvent, si vous êtes gestionnaire d'un grand shopping mall dans une ville en développement, ben, vous avez intérêt à avoir votre propre électricité, votre propre système urbain, etc. Du coup, avec une ville qui va être moins connectée et intégrée par les réseaux qu'autrefois, et beaucoup plus désintégrée en unités partiellement autonomes. Alors évidemment, derrière ça, tout n'est pas rose, parce qu'il y a aussi des choses qui sont problématiques dans cette évolution. Mais en tout cas, elle correspond à quelque chose dont j'ai déjà parlé, qui est cette espèce de rêve aussi des circuits de proximité, un peu sur le modèle du quartier de Hammarby à Stockholm, dans lequel vous remplacez les grandes solidarités que crée par exemple un réseau d'assainissement sur l'ensemble d'une métropole par des trucs beaucoup plus locaux. On recycle localement, on échange localement des choses, etc. Pour terminer, on va parler un peu des limites finalement de cette idée de ville intelligente, parce que c'est ça qui me semble important. La cartographie, évidemment, c'est une dimension importante. J'en ai parlé à plusieurs fois dans ce cours. Mais ce qui me semble peut-être tout à fait fondamental, encore une fois, c'est de comprendre aussi que la ville intelligente, c'est pas le paradis pour tous, pour demain. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de modèle univoque de ce que doit être la ville demain. C'est une question en débat. Et y a-t-il jamais eu un modèle univoque de ce que doit être la ville? Eh ben non, en fait. Et donc la ville intelligente, ben, elle souffre d'un certain nombre de déficits et de carences. Et donc, du coup, ce n'est pas la panacée. Comme je le disais, vous avez une remontée très forte aujourd'hui des questions liées au climat. On va en parler dans ce cours, à partir dans les séances de janvier seront quand même beaucoup consacrées à ça. Fanny Lopez et autres interviendront sur ces questions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la ville intelligente, elle pose des questions qu'il est utile de se poser. Alors, première question, le numérique, c'est pas la panacée déjà, parce que le numérique, on le sait, ça pose des questions de sécurité. Si vous faites tout dépendre du numérique, qu'est-ce qui se passe le jour où vous avez un hacker qui fout la pagaille? On l'a vu, on le voit déjà lorsque vous avez des gens qui font du cyber banditisme sur, par exemple, des grands systèmes comme les hôpitaux, etc., et qui vous chiffrent tout, et si vous ne versez pas des bitcoins, vous perdez toutes les données. Qu'est-ce qui se passerait si on avait ça sur des choses encore plus sensibles? Autre question, je parlais du climat, qu'est-ce qui se passe Lorsque Paris va connaître des épisodes caniculaires vers 2050 qui vont durer des semaines entières, où il fera plus de 40, donc est-ce que le numérique, ça va résister? Le numérique, ça n'aime pas trop la chaleur. Donc, surtout lorsqu'on le fait tout, on ne va pas tout climatiser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, des problèmes plus urgents, maintenant, dès à présent, c'est qu'on sait bien que le numérique, ça consomme beaucoup d'énergie. Le numérique, je crois que ça représente, encore une fois, ça paraît pas énorme, ça représente 4-5% de la consommation d'énergie globale. Enfin, c'est pas, et de la production de gaz à effet de serre. C'est pas gigantesque, simplement que c'est le truc qui croît le plus vite. Et c'est en passe, en fait, parce que ça croît très vite. Si on n'y prête pas garde, ça va devenir une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, ben, les serveurs, ça chauffe. On a beau les mettre éventuellement parfois dans des endroits froids. Eh ben, il faut climatiser, etc. Donc, toutes ces questions se posent. Alors, se pose aussi la question du recyclage du numérique. Et ça, le numérique génère aussi ce qu'on appelle du e-waste, du déchet électronique en pagaille. Vous savez que la règle première d'une ville recyclable, etc., c'est tu ne colleras pas, tu ne soudras pas. Parce que, si vous voulez, en fait, il faut pouvoir désassembler. Manque de peau, à peu près tout ce qu'il y a dans vos téléphones portables, etc., c'est soudé, collé, etc. Du coup, c'est très dur à recycler. Du coup, en fait, eh ben, on envoie ça en Afrique, parfois autrefois, il y a encore quelques années en Chine, et puis on ne regarde pas trop ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, ce n'est pas très bon pour la planète, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore moins bon pour les locaux qui s'occupent de recycler tant bien que mal ce qui peut l'être dans le cadre d'économie, de la pauvreté. Donc, tout ça pour dire que la vraie question, peut-être, de la ville intelligente, ce n'est pas d'imaginer une ville suprêmement irrigué par le numérique, c'est plutôt de faire des choix et de se dire qu'il y a des fois où ça ne vaudra pas le coup, en fait, d'utiliser le numérique. Un peu, je dirais, je fais partie des avocats de ce qu'on appelle maintenant de plus en plus la frugalité numérique, c'est-à-dire que bah, il y a des fois, il serait bon de ne pas se servir du numérique. Tout n'est pas, encore une fois, soluble dans le numérique. Et la promesse des GAFA, comme quoi le numérique est illimité, gratuit, bon, en tout cas très bon marché, et etc., est en fait une fausse promesse, parce que le numérique consomme des matériaux, de l'énergie, produit des gaz à effet de serre, donc eh ben, il va falloir s'en servir à bon escient, et donc probablement un peu moins systématiquement que ce qu'on imagine parfois. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, j'ai parlé à un moment du fait que la ville intelligente, on imaginait ça pour les gens qui font de la recherche universitaire, qui font des start-up. À un moment, d'ailleurs, la ville de Paris expliquait qu'elle voulait que tous les Parisiens soient des start-upers, etc. Mais en fait, manque de peau, tout le monde ne peut pas faire l'école des ponts. La ville n'est pas uniquement faite pour les bac plus 15. Donc, pour les gens, ça, c'est le campus de MIT à Cambridge, Massachusetts, qui, comme la Silicon Valley, fait partie de ces espaces, effectivement, plutôt pour Bac plus 15, mais enfin, c'est pas généralisable. Donc, quid de la ville, plus généralement? Et ça, c'est une question qui n'est pas du tout simple à résoudre. Et je dirais, ça explique aujourd'hui la remontée très forte de la question de la ville inclusive, de la ville juste, c'est-à-dire, est-ce que le smart... la ville intelligente, dans quelle mesure est-ce compatible avec une ville inclusive et une ville juste? Et ça, à mon avis, c'est une des grandes limites de la réflexion actuelle. Alors, dans le même genre, bon, un peu lié à ça, ça, c'est un autre projet un peu démentiel et bizarre de ville intelligente pour l'Inde. Mais ça ressemble plus à un faubourg de Zurich qu'à une ville intelligente indienne. Et en fait, si on réfléchit, l'avenir peut-être de la ville intelligente en Inde, c'est pas ça. C'est rêve, finalement, de ville aseptisée qui fonctionnerait, d'ailleurs pour cadre, finalement, qui travaille dans les industries de pointe. Mais c'est plutôt ça, c'est-à-dire ces jeunes gens des bidonvilles qui sont capables de se servir des smartphones avec un taux de pénétration tout à fait important dans les bidonvilles. Et du coup, vous vous rendez compte que finalement, d'ailleurs, soit dit en passant, peut-être que Smart en Inde, une des tâches les plus urgentes, ça serait de se servir de l'agilité des techniques numériques pour savoir comment finalement transformer les bidonvilles de façon soft. Parce qu'avec les infrastructures traditionnelles, très grosso modo, soit vous mettez pas d'assainissement, et etc., soit vous rasez le bidonville. Vous, en fait, vous expulsez tout le monde et du coup, le bidonville va se recréer un peu plus loin dans la métropole. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas progressivement transformer les bidonvilles en se servant de technologies plus légères et en utilisant le numérique? Ça pourrait peut-être être une meilleure option que faire des quartiers idéaux comme celui-là, qui en fait sont des fictions. Peut-être que la réalité, c'est un mélange de ça. Plus, je dirais, ça se poser des questions, par exemple, de micro-assainissement, etc., et peut-être avec une coordination différente au moyen d'outils numériques. En tout cas, il est clair qu'il faut diversifier les modèles de la ville intelligente. Il n'y a pas qu'un itinéraire vers la ville intelligente. Il faut diversifier ses publics. Il y a aussi des problèmes générationnels. Je suis peut-être sensible à ça, forcément, vu mon grand âge, mais la compétence numérique décroît avec l'âge. Donc, quid de l'intégration, pas seulement des pauvres, mais aussi des personnes âgées. Enfin, toutes ces questions se posent aujourd'hui par rapport au développement du numérique. Dernier point que je dis souvent, finalement, le numérique a tendance à nous plonger dans une espèce d'actualité permanente, comme si la vie, le monde était devenu une sorte de journal télévisé de 13h ou de 20h, comme si tout se passait à peu près au même niveau et qu'il n'y avait plus de sentiment de l'histoire et de l'évolution des choses, dans laquelle toutes les nouvelles sont au premier plan, du triomphe de Boris Johnson en Angleterre jusqu'à la survivance de traditions de poterie dans les villages des Pyrénées. Ça, c'est plutôt le journal de TF1 de Jean-Pierre Pernaut, du récent passage de Rihanna à Paris jusqu'au massacre des Rohingyas en Birmanie, comme tout était absolument au même niveau. Et il est bon de se souvenir à cet égard qu'une des premières métaphores finalement de l'espace numérique, c'est Las Vegas, je l'ai déjà dit une fois, et finalement Las Vegas, cette ville où il se passe à tout instant quelque chose, mais où il ne se passe jamais rien d'une autre façon, où les choses se répètent. Alors peut-être qu'il faut rompre avec ça, peut-être qu'il faut rompre avec l'idée d'une ville finalement dans laquelle il se passerait rien et réintroduire encore une fois la politique et puis même, utilisons ce gros mot, l'histoire. Les villes se constituent dans l'histoire, dans le temps et pas seulement dans l'espace. Elles sont sédimentées, ça c'est une gravure d'un architecte italien, Aldo Rossi, qui insistait sur le fait qu'il y a dans la ville des traces de projets différents, d'époques différentes, des combinaisons finalement parfois extrêmement hybrides. Et peut-être que c'est finalement un des grands défis de la ville intelligente, c'est comment la réinscrire dans l'histoire, comment la réinscrire dans le temps. Le temps qui n'est pas le temps, un éternel présent, mais un temps plein de surprises, de changements, de ruptures. Et on va s'arrêter là, Ali. Merci, hein. Super.